Quelle joie pour moi d'être de retour à l'Église Mosaïque pour célébrer avec vous un nouveau chapitre dans votre histoire sous la direction de pasteur Michael Brugger avec son épouse Lydie. Et je suis tellement heureux pour vous et aussi heureux pour Michael et aussi Lydie pour cette transition et ce nouveau défi. Michael et Lydie, c'est un couple dont je suis très fier. Je les connais depuis beaucoup d'années. Quand ils sont arrivés de la Suisse, il y a plusieurs années, pour suivre une formation à l'Institut de théologie pour la francophonie, qui est votre école biblique, soutenue par vos prières et vos finances et votre participation. Et là, de les voir passer par la formation et par la suite servir à l'Église Nouvelle Vie à Longueuil, une grande bénédiction pour nous à l'Église Nouvelle Vie et par la suite une grande bénédiction pour l'Église Le Fort à Sorel et maintenant une grande bénédiction pour vous ici à l'Église Mosaïque. Alors bravo à vous et félicitations et très heureux de participer dans ces moments avec toi, Michael, Lydie et aussi avec mes amis aussi Emmanuel et Émilie aussi que je connais depuis bien des années qui ont aussi été une grande bénédiction pour nous à l'Église Nouvelle Vie sur notre site La Prairie et je sais depuis des années ils sont une bénédiction pour vous à l'Église Mosaïque aussi. Alors vraiment une joie de participer dans ce moment avec vous là. Je vous aime, je suis fier de vous et je vous assure de notre engagement, l'engagement de l'Association chrétienne pour la francophonie, le mouvement dans lequel vous appartenez. Vous êtes une église accréditée, ce sont des ouvriers accrédités avec l'ACF, un mouvement de plusieurs églises et ouvriers, des centaines d'ouvriers, des églises ici au Québec, partout dans le monde francophonie. Je vous assure de notre appui. Vous avez notre appui, notre soutien. Nous sommes là pour vous. On est là, on prie pour vous. On veut vous soutenir dans toutes les manières que nous pouvons. Et on vous assure de notre présence, nos conseils, notre appui, notre soutien et nos prières. Non seulement de l'ACF, mais aussi de l'Église Nouvelle Vie. On vous aime, toute la grande famille de l'Église Nouvelle Vie vous aime. On est là pour vous. On est fiers de vous et on sait qu'il y a des belles choses en réserve dans les mois et années à venir. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comme Pasteur Michael a mentionné, la dernière fois que j'étais ici sur cette plateforme, c'était fin février 2020. Et c'était le dernier message, on ne savait pas qu'est-ce qui nous attendait là. C'était le dernier message que j'ai prêché en présentiel avant la pandémie, avant que l'Église soit fermée pour un an et demi, presque deux ans d'une façon parlée, c'était ici le dernier message que j'ai prêché avant la pandémie, puis d'être de retour trois ans et demi plus tard et voir que l'Église est encore là et que l'Église, pas seulement votre Église, mais l'Église au Québec a non seulement survécu la pandémie, mais on fleurit même post-pandémie. Alors, je remercie le Seigneur pour cela. On est encore là. La pandémie a tenté d'écraser l'Église, détruire l'Église, tuer l'Église, mais l'Église a non seulement survécu et survit, mais l'Église fleurit par la grâce du Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Alors, d'être de retour avec vous après trois ans et demi plus tard, c'est vraiment une joie. Il y a quelqu'un qui a dit que tous les fêtes juives de l'Ancien Testament, tous les fêtes juives de l'Ancien Testament peuvent être résumées par « Quelqu'un a essayé de nous détruire, il n'a pas réussi, mangeons. » C'est à peu près ça. C'est une célébration, chaque fête juive est comme une célébration de la victoire, la survie, malgré les attaques de l'ennemi. Et moi, je pense que ça s'applique très, très, très bien à la pandémie. La pandémie voulait tuer l'Église, mais elle n'a pas réussi. Mangeons, célébrons, merci Seigneur, que l'autre côté, l'Église fleurit. Et je dis ça littéralement, l'Église fleurit. Il y a quelque chose qui prend place post-pandémie. Moi, j'ai le privilège de voyager partout au Québec, la francophonie, tous les dimanches, je suis à quelque part au Québec, les quatre coins, et il y a quelque chose qui prend place. Il y a un mouvement, il y a un momentum, les jeunes adultes, les églises. Ici, à l'église mosaïque, comme je témoigne, il y a quelque chose qui prend place. Et nous avons le joie, non seulement de témoigner ce que le Seigneur fait aujourd'hui, mais aussi de participer dans ce que le Seigneur fait. Et moi, je crois que nous vivons des jours très, très excitants, mais on n'a rien vu encore de ce que le Seigneur veut faire. Il y a un mouvement. Quelqu'un a dit, j'ai entendu sur une émission de radio chrétienne dernièrement, quelqu'un qui a dit, l'Église au Québec est morte. Exact. Non. Puis moi, j'ai dit, moi, cette personne-là, il faut sortir plus souvent. Parce que l'Église n'est pas morte. L'Église est vivante et vibrante et dynamique et croissante et le Seigneur fait quelque chose d'extraordinaire et nous participons dans ces choses-là. Alors, moi, je dis merci Seigneur d'avance pour la nouvelle saison, le nouveau chapitre dans l'Église et la vie et l'Église mosaïque. Et on dit merci Seigneur d'avance pour tout ce que tu fais et va faire. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Alors, vraiment une joie de participer dans ce que le Seigneur fait ici, dans cette église. Et ça, ça mérite plus qu'un applaudissement poli. OK? All right? Quand il a présenté Pasteur Mark, là, un applaudissement poli, là, c'est correct, ça. Mais quand on parle de ce que le Seigneur fait dans l'église, ça mérite plus qu'un applaudissement poli. Ça mérite une ovation debout. Come on! Come on! Tout le monde debout. D'en arrière, come on! D'en arrière jusqu'ici en avant. Bonne main d'applaudissement au Seigneur. Une ovation! Une acclamation, poussons un cri de joie. Merci Seigneur. Non seulement que l'Église survit des attaques, l'Église fleurit, l'Église grandit, on vit quelque chose de spécial. On dit merci Seigneur, puis on n'a rien vu encore. Come on, un bon main d'applaudissement, poussons un cri de joie. Merci pour le témoignage de cette Église, Seigneur. Merci pour l'avenir de cette Église, merci pour cette équipe, merci pour ce peuple. Yes, quelle joie de faire partie de ce que le Seigneur fait. J'ai un message pour vous ici ce matin que j'appelle la valeur inestimable de l'équipe. La valeur inestimable de l'équipe. Et quand je parle de l'équipe, je parle de vous. Je parle de vous. Car s'il y a une chose que j'ai appris en 39 ans de ministère pastoral, est que le travail de l'Église est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Alors, ne sous-estimez jamais l'importance de qui vous êtes, car vous faites partie de l'équipe, the team. Nous avons plusieurs termes pour décrire les gens qui viennent à l'église un dimanche matin, semaine après semaine. On peut les appeler les fidèles, la congrégation, le peuple, l'église, les membres. Mais selon moi, le meilleur, c'est l'équipe. Nous faisons partie d'une équipe. Et chaque église et chaque pasteur a besoin d'une équipe. Une équipe en santé. Car la santé de l'Église dépend sur la santé de l'équipe et nous n'aurions pas d'Église du tout si nous n'aurions pas des responsables, des bénévoles, des serviteurs, des leaders, des personnes qui s'impliquent et qui donnent comme vous. Alors, ne sous-estimez jamais l'importance de l'équipe. Vous pouvez sauver la vie d'un pasteur littéralement, comme dans cette histoire avec Moïse, où Moïse passait un moment difficile, une journée difficile, et remarquez sa prière devant Dieu. Ça dit, Moïse fut attristé, puis dit à l'Éternel, « Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, enlève ma vie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Tue-moi, je te prie. » Combien sont heureux que Dieu ne répond pas toujours oui à toutes nos prières? Il n'a pas répondu oui. Alors, Dieu répond comment? Il n'enlève pas sa vie, il n'enlève pas son ministère. Il répond en disant à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes, emmène-les à la tente d'assignation et qu'ils y présentent avec toi. » L'Éternel descendit dans la nuée, il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Au lieu d'enlever sa vie, il lui a donné une équipe remplie de l'Esprit. Et cette équipe a sauvé la vie et le ministère de Moïse. Et Moïse a été tellement reconnaissant qu'il a dit un petit peu plus tard, quand son, en réponse à son assistant, il y avait un assistant, Josué, qui croyait que Moïse était le seul qualifié pour porter le fardeau et faire le ministère. Puis là, il dit, « Hey, Moïse, Moïse, il y en a d'autres personnes qui s'impliquent. Il y a d'autres personnes qui servent. Il y a d'autres personnes qui représentent Dieu. Il y a d'autres personnes qui communiquent. » Il dit, « Il faut les arrêter parce que le ministère, ça appartient à toi, puis aussi à moi. » Puis qu'est-ce que Moïse répond? Il dit, « Es-tu jaloux pour moi? » Et il était tellement reconnaissant pour l'équipe qu'il dit, « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, ceux qui servent le Seigneur, ceux qui communiquent pour Dieu, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Il attendait un jour que tout le peuple de Dieu soit rempli de l'esprit, soit équipé pour faire le ministère ensemble en tant qu'équipe. Et est-ce que la prière de Moïse a été répondue? Oui, 1500 ans plus tard, le jour de la Pentecôte, comme décrit en Acte 2, quand le Saint-Esprit a descendu sur l'Église afin de les rendre ensemble, afin que l'Église ensemble soit prête et préparée par Dieu pour faire le ministère ensemble, comme qu'il fait encore aujourd'hui. Car personne ne doit porter le fardeau seul. Vous êtes la réponse à la prière de Moïse. Le Moïse a dit, je vois un jour où ce que tout le peuple va avoir accès à la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, afin de faire le travail de l'Église et le royaume de Dieu ensemble. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes la réponse à la prière de Moïse. Une bonne main d'applaudissement pour dire, yes, merci Seigneur, je suis la réponse à la prière, j'ai l'Esprit, je fais partie de l'équipe. Je fais partie de l'équipe. Alors, si c'est vrai que le travail de l'Église est un travail d'équipe, ça c'est quelque chose que j'ai appris en 39 ans de ministère, ça c'est certain, ça ne se fait pas tout seul. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un membre de l'équipe bénéfique et utile? Qu'est-ce que j'ai découvert dans toutes ces années pour dire, qu'est-ce qui fait un membre de l'équipe bénéfique et utile? Selon moi, c'est la prière vive, c'est la présence assidue, c'est la parole encourageante et c'est la participation tangible. D'abord, en tant que membre de l'équipe, nous sommes tous appelés à la prière. La prière vive et ardente. Pourquoi? Parce que la prière nous prépare spirituellement pour faire de nous une équipe spirituelle, des gens sur qui l'Esprit de Dieu repose, en qui l'Esprit de Dieu agit, par qui l'Esprit de Dieu communique et travaille, comme avec l'équipe de Moïse. Ça fait de nous des personnes choisies et oints par l'Esprit pour faire le travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, ça commence avec la prière. Et quand je parle de la prière, je ne parle pas de la prière nonchalante, routinière, ennuyante, mais la prière avec anticipation, la prière qui attend une réponse, la prière qui attend quelque chose de la part de la main de Dieu. La prière avec anticipation, comme Néhémie a prié, j'aime cette prière de Néhémie, si vous l'avez sur l'écran. Ah, Seigneur! Que ton oreille soit attentif à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Néhémie n'était pas gêné de demander pour le succès. Il dit, si on travaille ensemble, si on prie ensemble, on prie pour un fruit, on prie pour des résultats. Prions pour des résultats et attendons des résultats. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Car notre sort n'est pas prédéterminé d'avance, ni par Dieu, ni par les dieux, d'une façon parlée. Il y a bien des religions mondiales qui sont fatalistes par nature. Ils sont fatalistes. C'est notre sort. On accepte notre sort. Notre sort est déterminé ou prédéterminé par Dieu ou par les dieux. Il faut accepter qui nous sommes parce qu'ils sont fatalistes. Il y a bien des religions qui sont fatalistes. Ils disent, mais tout est prédéterminé et on ne peut rien changer. Il faut juste accepter notre sort. Mais laissez-moi vous dire que la foi chrétienne n'est pas fataliste. La foi chrétienne est passionnée, proactive et croit que par Dieu et avec Dieu, nous pouvons changer. changer des choses. On peut gagner, on peut avoir des résultats, on peut avoir des percées. Nous prions avec anticipation parce que nous ne sommes pas des fatalistes, nous sommes des anti-fatalistes et c'est pour ça qu'on donne, on sert, on prie, on s'implique parce que nous croyons à la possibilité d'un changement par la puissance du Saint-Esprit et le travail d'une équipe. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment? Un bon amen d'applaudissement pour la possibilité de changer les choses. L'intercession, la prière avec anticipation est le contraire du fatalisme. C'est l'antifatalisme. C'est de saisir les promesses de Dieu par la prière afin de transformer notre réalité, notre destinée et notre avenir. Et moi, j'aime la façon que le théologien écrivain Walter Week le dit par rapport à l'intercession. C'est un peu long, mais c'est riche. L'intercession, il est sur l'écran. L'intercession est un défi spirituel concernant les promesses de Dieu. L'intercession visualise une possibilité à venir qui, au moment présent, semble être complètement de l'ordre de l'impossible. Elle imprègne l'air du temps au point d'assiéger l'atmosphère du moment. C'est clair. L'histoire appartient aux intercesseurs qui croient en l'avenir. L'avenir appartient à quiconque peut envisager une nouvelle possibilité souhaitée selon les multiples facettes que la foi considère alors étant inévitable. Les églises qui se lamentent continuellement sur leur incapacité à porter des changements sont en fait dans la position enviable où elles peuvent avoir recours à l'arme la plus puissante que soit. Cependant, cette arme relève d'un pouvoir spirituel que l'on discerne spirituellement et que l'on exerce spirituellement. Ceci requiert des intercesseurs qui ont foi en l'avenir. La Bible nous appelle à nous approcher de l'Éternel des armées dont les voies sont insondables. Il œuvre pour nous et avec nous. Il agit selon les prières de ceux qui se soucient suffisamment pour façonner un avenir plus humain. La prière biblique est audacieuse, insistante, impudique, impolie. Nous le voyons dans la parabole de la veuve insistante et dans celle de l'ami qui vient frapper à la porte à minuit. L'histoire appartient aux intercesseurs qui croient en l'avenir. Et à ça, moi, je dis oui. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Ça, c'est la prière antifataliste. La prière appartient à ceux qui croient à l'avenir, qu'on peut changer l'avenir. L'histoire appartient aux intercesseurs. Et c'est pour ça que ça, je dis qu'en faisant partie de l'équipe, nous sommes tous appelés à cette prière intense, à la prière qui attend des résultats, à la prière qui veut changer l'avenir de cette communauté, de cette province. L'histoire appartient aux intercesseurs qui croient en l'avenir. La prière antifataliste. C'est Abraham Lincoln qui a dit en anglais, « The best way to predict the future is to create it. » La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Et moi, je crois que par la puissance du Saint-Esprit, l'appel de Dieu, l'onction de Dieu et la prière, nous pouvons changer l'avenir. Si vous êtes d'accord avec moi, une bonne main d'applaudissement pour le Seigneur pour dire « Yes, on peut changer, on peut avoir des résultats. Donne du succès, Seigneur, à nos efforts, à la semence qu'on sème, la prière. » La prière avec anticipation. En deuxième, pour être un membre de l'équipe de bénéfique et utile, c'est la prière, mais aussi la présence, d'une manière assidue et constante. C'est d'être présent, d'être là, disponible. La spiritualité est importante, mais aussi la disponibilité. Les gens qui disent tout simplement « me voici, envoie-moi ». Avez-vous remarqué que dans la liste des choses que j'ai données, prière, présence, parole et participation, je n'ai jamais inclus la perfection. La perfection. Dieu ne cherche pas la perfection, d'être parfait. Ce que Dieu recherche n'est jamais la perfection, mais le progrès et surtout la disponibilité, d'être disponible, d'être présent. Pour dire juste, je ne suis pas parfait, mais me voici, disponible. La vie de Jésus et les histoires bibliques nous apprennent que Dieu ne choisit pas toujours les meilleurs pour être son leader, pour être à son service. Dieu ne cherche pas toujours les élites. Dieu ne cherche pas les parfaits, ni les plus grands, ni les plus beaux, ni les plus intelligents, ni les plus talentueux, ni les plus doués. Qui veut dire quoi? Est-ce que Dieu se sert toujours des gens les plus stupides, laids, incompétents, niaiseux et petits? Non, 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 non. il se sert des gens les plus disponibles. Ceux qui disent tout simplement, « Me voici, envoie-moi, sers-toi de moi. » Ceux qui sont prêts à dire, « Je ne suis peut-être pas le meilleur, mais pourquoi pas moi? » Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Disponible. Je suis là, je suis présent. C'est pour ça que je dis, c'est la prière et la présence, de dire, « Me voici. » En 1980, mon père, le pasteur Samuel Lecomte, il y a plusieurs ici qui connaissent mon père, le pasteur Samuel Lecomte, qui était pasteur depuis longtemps ici au Québec. Il avait tellement confiance en pasteur Claude Hood, mon ami, qui est le pasteur principal de l'Église Nouvelle Vie. Il avait tellement confiance en nous quand on est quitté pour l'école biblique ensemble, qu'il nous a laissé avec ses paroles. Juste avant qu'on embarque dans la voiture pour quitter pour l'école biblique, moi j'avais 17 ans, pasteur Claude avait 19 ans, juste avant qu'on quitte pour l'école biblique près de Boston aux États-Unis, il nous a dit, « Si jamais vous vous faites expulser de l'école, continue vers le sud, ne reviens plus ici. » Vraie histoire. C'est ce qu'on appelle un vote de confiance. Merci pour les paroles de vie, Dad. Ça nous fait du bien. Mais c'était comme s'il ne pouvait plus rien faire avec nous. Dernière chance, l'école biblique, si ça ne fonctionne pas là, ne reviens plus ici, va vers le sud. Imaginez. Et je peux vous dire que plus qu'une fois à l'école biblique, on a regardé la carte géographique pour dire où allons-nous? Floride, peut-être? Et je dis cela parce que nous avons été loin d'être des candidats idéaux pour le ministère, mais nous avons été disponibles, on était là, on était désireux, et nous sommes encore là, 40 ans plus tard, et on est encore disponibles et désireux. On est loin d'être parfait, mais on est là. On est présent. Michael est présent, Emmanuel est présent, on est là, on n'est pas parfait, mais on est là, on est disponible. Et si le Seigneur peut faire quelque chose avec moi et avec l'autre, le Seigneur peut faire quelque chose avec vous. Est-ce que je peux entendre amen à cela? C'est pas la perfection que Dieu cherche, c'est le progrès, c'est d'être là, c'est disponible, on est encore là. D'être là. Comme dit le cinéaste renommé Woody Allen, 90% du succès, c'est juste d'être présent, c'est juste showing up, juste d'être là. Comme je dis souvent, si ce ne sera pas nous, vous et moi, qui d'autre? Quelqu'un faut le faire, pourquoi pas moi, pourquoi pas nous? Alors moi je dis, Seigneur, en 2003, ici au Québec, nous voici, on est disponible, remplis de ton esprit, donne-nous les qualités nécessaires pour être des membres de l'équipe utiles. Nous nous engageons à être des personnes, malgré nos imperfections, on s'engage à être des personnes qui prient, on s'engage à être des personnes qui sont présentes, qui sont là, qui sont disponibles pour les besoins de l'Église, le service de l'Église, les défis de l'Église, les projets de l'Église. On est loin d'être parfait, mais pasteur Michael, vous pouvez compter sur nous, on va être là, on est présent, on est disponible. Mais aussi, d'être des personnes qui communiquent des paroles de vie. Hein? Troisième qualité, c'est la communication positive, la communication qui inspire, la communication qui inspire la vie des gens. Soyez des gens qui inspirent et qui encouragent par leur physionomie et par leurs paroles, par leur voix, mais aussi par leur visage. On communique, on dégage la foi, l'optimisme, la joie, la vie, l'encouragement. Il est tellement facile, sous les pressions de la vie, de dégager la frustration, la colère, la déception, le découragement, l'amertume, le négativisme, l'impatience, sans se rendre compte parfois. Sans se rendre compte que les gens autour de nous payent le prix pour nos défis personnels, financiers, sociaux, professionnels ou familiales. Parce qu'il y a beaucoup de pression dans la vie, puis des fois, on ne réalise pas qu'est-ce qu'on dégage. Frustration, impatience, négativisme, l'amertume, à cause de toutes les frustrations de la vie quotidienne. Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui. Côté professionnel, même côté familial, et je peux comprendre. Je peux comprendre que la vie mariée et familiale n'est pas toujours facile, et ça, c'est vrai, ça. On met deux pécheurs ensemble, Chacun avec ses imperfections, ses faiblesses, ses habitudes et son bagage émotionnel, et on les demande de vivre ensemble sous le même toit et dans le même lit pour le reste de leur vie en harmonie et en paix. Un miracle. Dans l'ancien temps, ce n'était pas trop pire, les gens mouraient à 40 ans. Mais là, aujourd'hui, il y a 80 ans ou plus de temps pour tomber en amour, tomber ses nerfs. Et en plus, on ajoute des enfants, d'autres petits pécheurs. Et on demande tous ces pécheurs de vivre dans la même maison permanente et tous ces pécheurs de vivre ensemble dans la joie permanente, malgré nos différences, nos imperfections et nos défis, dont la raison pourquoi que la vie peut avoir des défis, des frustrations, et dont la raison qu'il faut mettre une garde sur nos lèvres et attention à nos paroles et d'arrêter de remarquer les bénédictions chez les autres avec l'envie et commencer à rendre grâce pour les bénédictions chez nous, d'avoir la reconnaissance au lieu de juste être conscient de qu'est-ce que nous n'avons pas, dire merci Seigneur pour ce que j'ai. Des gens qui inspirent l'encouragement, la joie de l'éternel et aussi la reconnaissance. Merci Seigneur, qu'on peut dire plus souvent merci pour ma famille, merci pour mes amis, merci pour mon épouse, merci pour mon époux, merci pour mon église, merci pour mon pasteur, merci pour mes pasteurs. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Merci Seigneur, merci. Il n'y a personne qui est parfait, mais merci, merci. Les membres de l'équipe qui encouragent, qui inspirent la foi. Un petit conseil pendant que j'ai le micro pour votre nouveau pasteur. Encouragez-lui de temps en temps. Lui et les autres membres de l'équipe, et les bénévoles, et les gens qui seraient dans l'église. Mais encourage votre pasteur de temps en temps avec des compliments, des compliments. C'est tellement facile de critiquer. C'est tellement facile d'offrir la critique, parce que personne n'est parfait. Mais nous avons tous besoin des compliments de temps en temps, des paroles d'encouragement, des remerciements. Et je parle par expérience. Les communicateurs publics, les pasteurs, les prédicateurs, nous sommes plus fragiles que vous pensez. On est plus sensible que vous pensez. Ça nous fait du bien d'avoir le compliment de temps en temps. Quelqu'un m'a déjà dit, « Pasteur Marc, si je vous offre des compliments, vous allez avoir la tête enflée. » Moi, j'ai répondu, « N'inquiétez-vous pas, il y a quelqu'un en arrière de vous qui va la désenfler assez rapidement. » C'est un travail d'équipe. Alors, n'inquiétez-vous pas. Quand vous offrez des compliments à votre pasteur et de dire merci, bon message, merci pour ton leadership et tout ça, n'inquiétez-vous pas d'une tête enflée. Il y a en masse de personnes qui veulent la désenfler assez rapidement. Critique, compliment, ça travaille ensemble dans l'Église. Mais soyez de ceux qui offrent des compliments parce qu'on est plus fragile que vous pensez. Ça nous fait du bien. Quand on est des communicateurs publics, ça nous fait du bien d'avoir une réponse, une reconnaissance pour ce qu'on fait. Moi, je sais, quand j'étais jeune prédicateur, j'ai commencé à prêcher pour la première fois. C'est certain que je cherchais un peu de positive feedback, là, puis des compliments de temps en temps. Je venais juste de commencer à prêcher, mais je me souviens, après des dimanches matins, j'étais dans la voiture avec mon épouse, puis, tu sais, je cherchais un peu de compliments, là, tu sais, sur le message que j'ai prêché. Je disais, je ne suis pas sûr que ça a bien été un matin. Puis elle répondait, oui, c'est vrai, tu avais de la misère, hein? La misère, essaie de prêcher, toi, tu vas voir que ce n'est pas facile. Ça arrêtait toujours en chacun. J'arrêtais de demander. Mais parce que ça nous fait du bien. Et même après toutes ces années, ça me fait du bien si quelqu'un dit, ça m'a fait du bien, merci pour le message, merci pour le leadership, merci pour la communication, merci pour ce que tu fais, ça nous fait du bien. Le membre de l'équipe qui prie avec anticipation, qui est présent, mais aussi qui communique des paroles de vie, d'encouragement, une parole qui inspire et une parole de reconnaissance, qui édifie, inspire, mais aussi qui offre la participation tangible. La participation tangible. Soyez des personnes fidèles et fiables sur qui votre Église peut confier des tâches et des responsabilités. Proverbe 21:6 dit, « Beaucoup de gens proclament leur bonté. » Hein? Tout le monde proclame leur bonté. « Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ceux qui ont des bonnes intentions, il y en a en masse. Mais où sont les hommes et les femmes fidèles, fiables, sur qui on peut compter? C'est pas juste du blabla comme ça, là, mais c'est vraiment concret, c'est tangible. C'est pas juste des bonnes intentions. Hein? Proverbe 26, c'est une autre façon de dire, tout le monde a des bonnes intentions, mais qui est prêt à s'impliquer, donner et diriger? Un homme fidèle, qui le trouvera? J'espère que la réponse, nous avons la réponse à cette question ici à l'Église Mosaïque ce matin pour dire, nous sommes ces hommes et ces femmes fidèles, vous pouvez compter sur nous. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Combien sont prêts à lever leurs deux mains et dire, je suis cette personne, Seigneur, tu peux compter sur moi? Comment lever vos deux mains pour dire, je suis cette personne, c'est pas juste des bonnes intentions, Seigneur, c'est des fidèles, impliqués, fiables, je vais être là. C'est pas juste des paroles, c'est la partie. Car rien n'est accompli par des bonnes intentions seulement. Des bonnes intentions, tout le monde en a. Ce matin, je vous appelle à être ce que nous appelons des serviteurs leaders. Et ne sous-estimez encore jamais l'importance de ces personnes dans le royaume de Dieu. Jésus, en Matthieu chapitre 9, il a dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et si la moisson était grande il y a 2000 ans, elle est encore plus grande aujourd'hui. La moisson est grande au Québec, mais il n'y a plus d'ouvriers. Priez, priez. Il nous appelle à la première chose, la prière. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis avez-vous remarqué, il a dit priez. Mais avez-vous remarqué que Jésus n'a pas dit la moisson est grande, il n'y a plus d'ouvriers. Priez pour le réveil, priez pour le feu, priez pour la puissance, priez pour l'onction. Il a dit non, priez pour du personnel. On n'a pas un problème de puissance, on a un problème de personnel. Il a dit priez pour du personnel, des bénévoles, des ouvriers, des faiseurs, des doueurs. On a besoin des doueurs dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ceux qui vont faire quelque chose. Il dit priez pour les ouvriers, c'est ça notre problème. Pas le réveil, la puissance, le feu, l'onction. C'est le problème d'ouvriers. Personne qui s'implique, les bénévoles, les doueurs. Un jour, nous voulons entendre les paroles de Jésus-Christ. Bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Non pas bien dit, bien cru, bien pensé, bien ressenti, mais bien fait. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Pour que l'Église mosaïque accomplisse la mission et la vision que le Seigneur vous a confiée pour la prochaine saison, le prochain chapitre de votre histoire, une église qui continue d'être une église de croissance, multiplication, bénédiction. Il ne faut pas des spectateurs. Il ne faut pas des spectateurs. Des gens qui regardent, observent, offrent des critiques et des commentaires. Comme se dit sur le plaque en rentrant dans le Holocaust Museum à Washington, D.C., tu ne seras pas une victime, tu ne seras pas un criminel, mais avant tout, tu ne seras pas un spectateur. Puis ça s'applique aussi au royaume de Dieu. On ne veut pas être des spectateurs. Les gens qui juste regardent qu'est-ce qui prend place. Mais on ne veut pas non plus juste être des cheerleaders. Tu sais, des cheerleaders, vous savez c'est quoi un cheerleader, hein? Un heure de claque, là, des cheerleaders. Des personnes qui sont sur le sideline, qui ne jouent pas le sport, mais ils sont là pour dire, « Yeah, 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 go, 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 l'équipe. » On a des cheerleaders dans l'église hein, qui vont dire « Yes, vous êtes capables, bravo! » Ils vont applaudir, ils vont dire même « Amen, amen, amen! » Yes, la mission, la vision, le percée, l'évangélisation, la communauté, yeah, 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 des cheerleaders, on en a dans l'église. Là. Yeah, bravo, wouhou, yéhé, amen! Mais donne pas, s'implique pas et ne participe pas. J'en ai vu dans 39 ans de ministère. Mais ce que l'Église a besoin n'est pas des cheerleaders, c'est des joueurs, c'est des participants, des gens qui s'impliquent dans le jeu, dans le match, dans la partie, parce qu'ensemble, c'est comme ça qu'on récolte le fruit nécessaire et on voit les percées et l'impact et la multiplication. On n'a pas besoin des spectateurs, mais on n'a pas juste besoin des cheerleaders non plus. Nous avons besoin des joueurs et des participants. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Si vous êtes d'accord avec moi, une bonne main d'applaudissement au Seigneur qui nous appelle à jouer, jouer, jouer. Get involved. L'apôtre Paul a dit à Timothée, son jeune protégé, « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Travaille pour avoir les fruits. Pas trop mystique. Le travail avant le fruit. L'apôtre Paul était très, très à terre. Pas trop spirituel ou mystique ici. Comme si le réveil va tout régler. Il faut juste prier plus fort, plus souvent, plus intense. Non, il dit « Travaille pour avoir le fruit. » Sème une bonne semence afin de récolter un bon fruit. Et tout ce que vous allez faire et tout ce que vous faites est une semence pour avoir un bon fruit. Le fruit de l'avenir dépend sur la semence qu'on sème aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Il dit, travaille. Il faut qu'il sème la semence pour avoir le bon fruit. Tout ce que vous faites, votre implication, vos dons, générosité, prière, implication, service, sacrifice, dérangement, déplacement, c'est toutes des semences pour avoir le fruit de résultats, croissance, impact et multiplication. C'est Thomas Edison qui dit, la vision sans l'exécution, sans le travail, c'est l'hallucination. C'est bien dit ça. La vision sans l'exécution, c'est l'hallucination. Vision without execution is hallucination. Je suis d'accord avec lui. Il est facile d'halluciner des grandes choses, rêver des grandes choses, imaginer des grandes choses, facile de prophétiser des grandes choses, facile de parler des grandes choses. Mais sommes-nous prêts à travailler pour des grandes choses? Travailler ensemble vers la vision que le Seigneur vous a donnée. Travailler, l'exécution. Le rôle d'une église et les chrétiens à l'intérieur d'une église n'est pas rien que la vision, c'est l'exécution. Et l'exécution demande l'effort, le sacrifice, le dérangement. Ça exige des rencontres, des réunions, la discussion, la réflexion, la transpiration, le temps, l'argent, la prière, la patience, la persistance. L'effort nécessaire et l'énergie nécessaire pour aller à la prochaine étape, la prochaine dimension de ce que le Seigneur a en réserve pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous me suivez? Comme nous disons souvent, le succès d'une église est 10% inspiration et 90% transpiration. L'inspiration, c'est facile, c'est la transpiration. Et le résultat n'arrive pas par hasard, par accident. Ni le réveil, ni la croissance. C'est Charles Finney qui a dit, « Un réveil n'est pas plus miraculeux qu'une récolte de blé. » C'est bien dit, ça. C'est pas plus un miracle qu'une récolte de blé. Si nous travaillons la terre d'une certaine manière, d'une certaine façon, selon les principes de l'agriculture, notre travail va produire un fruit. Et ne pensez jamais, je termine dans quelques instants, mais ne pensez jamais que le travail remplace l'aide de Dieu. Quand je parle du travail, oh là, il remplace l'aide de Dieu avec l'implication humaine. Il remplace l'onction, il remplace le Saint-Esprit, on est sous la grâce. Le travail, c'est la loi, mais nous sommes sous la grâce. Non, ce n'est pas vrai ça. C'est vrai, toute la gloire à Dieu. Et c'est tout par la grâce. Mais moi, j'aime la manière que l'apôtre Paul le décrit ici. Très, très, très bien. La synergie entre le travail et la grâce. Il vient en constamment d'une spiritualité paresseuse, parce que c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. 1 Corinthiens 15, remarquez qu'est-ce qu'il dit, c'est parfait. Par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. C'est vrai ça, nous sommes qui nous sommes par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Donc, il dit, je suis qui je suis par la grâce de Dieu, mais ça ne remplace pas le travail. Je travaille plus que tout le monde. Mais là, il revient en disant, mais pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Wow! Quelle belle façon d'expliquer la synergie entre la grâce et le travail, les moyens divins et humains. Nous travaillons fort, mais c'est la grâce de Dieu qui nous aide et nous rend capables de travailler fort. Alors, même dans notre travail, la gloire revient toujours à Dieu. C'est lui qui nous donne l'onction, les dons, les talents, l'énergie, la santé, la capacité de travailler fort, mais c'est toujours par sa grâce qu'on travaille. Alors, gloire au Seigneur. Et comme je dis souvent, nous faisons tout notre possible, mais Dieu fait l'impossible. Une bonne main d'applaudissement pour l'impossible que Dieu donne à notre possible. Yes, c'est par sa grâce et par la gloire du Seigneur. Être membre de l'équipe veut dire qu'on participe d'une manière tangible, avec notre temps, notre énergie, nos talents, nos expertises, notre connaissance et notre argent. Notre argent. Nous sommes souvent un peu vagues et ambiguës quant au sujet finance, mais la Bible, non. L'Ancien Testament, Nouveau Testament, le principe de la générosité et la contribution à l'œuvre de Dieu est clair. On veut donner d'une manière libérale et généreuse. Je ne parle même pas de la dîme ici, car donner 10 % de notre salaire, c'est la cause de départ. J'aime ce que John Ortberg dit. La dîme, c'est comme des roues stabilisatrices. Elles sont destinées à vous aider à demeurer, mais pas recommandées pour faire le tour de France. C'est un bon plancher, mais un mauvais plafond. On commence avec ça. Parce qu'on ne veut pas paraître devant l'Éternel, comme se dit en Deutéronome 16, les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Ça, c'est quand même très puissant. C'est très significatif ce qu'il dit ici. On donne selon On n'arrive pas les mains vides. On donne notre temps, notre énergie, nos implications, notre connaissance, mais aussi notre argent. Mais selon les bénédictions que le Seigneur nous a accordées. Wow! So, donner à Dieu est un acte de reconnaissance pour les bénédictions de Dieu. Ça révèle l'état de notre cœur. Si nous croyons que nous sommes bénis ou pas. Combien ici se croient bénis ce matin? Levez vos deux mains. On n'est pas bénis d'être ensemble. On n'est pas bénis d'être ici, de connaître le Seigneur, la bénédiction de la Nouvelle Alliance. Wow, qu'on est un peuple béni. Bon, quand on donne, c'est par reconnaissance. On donne selon les bénédictions de l'Éternel a accordées. So, quand on donne, bien, on donne, ça révèle l'état de notre cœur, si nous croyons béni ou pas, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Ce qui veut dire quoi? Celui qui donne peu, pense qu'il est peu béni. Celui qui ne donne rien, pense qu'il n'est pas béni du tout. C'est pour cela que la générosité est un acte de gratitude. Il reflète notre opinion sur la bonté et la fidélité et la provision de Dieu. Un peuple béni est un peuple généreux. Un peuple ou une personne qui n'est pas, pense qu'il n'est pas béni. C'est comme la prière du pasteur juste avant l'offrande. Seigneur, nous avons prié à toi, chanté pour toi, mais maintenant voici ce que nous pensons vraiment de toi. Pas grand amen. C'est pour ça que j'ai dit, c'est la participation tangible. Pas le « yeah, yeah, bravo, youhou, t'es capable. » On ne s'implique pas, on ne donne pas, on ne investit pas, on ne sert pas. C'est tangible. Comprenez quelque chose. Donner n'est pas une façon de repayer notre dette envers Dieu. Ben non, ben non. Ce n'est pas une façon de gagner la faveur de Dieu. C'est un moyen pour cultiver un cœur généreux et un cœur reconnaissant pour les bénédictions de Dieu et une confiance en la provision de Dieu et reflète d'une façon concrète et tangible l'importance que nous donnons à la mission de l'Église et ce que nous croyons vraiment de l'Église, sa mission et sa cause. C'est un privilège. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Une participation concrète avec tous les moyens. Je dis cela parce que sans des leaders, sans des bénévoles, sans des hommes et des femmes qui s'impliquent, qui s'engagent, des personnes d'influence, des personnes généreuses, il serait impossible d'accomplir quoi que ce soit. 39 ans de ministère, communique ça. Impossible. Ça prend l'implication de tout le monde, la prière, la présence, la participation, des paroles qui inspirent, physionomie, et aussi avec les paroles, la voix et le visage, ça prend tout ça pour que, c'est la semence qu'on sème pour qu'on peut porter le fruit de la bénédiction et la multiplication du Seigneur. C'est absolument essentiel. J'invite les musiciens en avant. J'aimerais avoir le privilège de prier pour vous dans un instant. Ça nous dit en Proverbe, « La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. » Elle a taillé ses sept colonnes. La première chose que la sagesse personnifie, il personnifie la sagesse. Puis la sagesse arrive, la sagesse de Dieu, pour construire une maison, un édifice, un royaume, un bâtiment. Il dit, la première chose qu'elle fait, elle va tailler ses sept colonnes. Ça souligne l'importance primordiale d'avoir le nom parfait de colonne, de personne, des piliers, avant de construire quoi que ce soit. Puis ça, c'est la même chose pour une église. Pour qu'une église avance, ça prend le montant nécessaire. Sept colonnes. Hein? Sept, c'est le chiffre parfait, le numéro parfait. Pour l'église, ça prend le nombre parfait de personnes solide, engagé, impliqué. Comme Jésus avec ses disciples, le choix de l'équipe est prioritaire, primordial. Il faut le nombre parfait, le nombre nécessaire pour chaque ministère, chaque tâche. Et moi, je sais que le Seigneur, dans cette nouvelle saison de leadership, de ministère pastoral, de nouveau saison, me dit merci Seigneur pour la saison passée, merci pour les chapitres passés, merci Seigneur pour le fondement et croissance et multiplication et influence de cette Église sous le ministère des Chrétiens à la chance avec ETF et ACF et l'avenir et le ministère ici au Québec. On dit merci pour ça Seigneur, on t'honore pour ça, on t'applaudit pour ça, on dit merci pour ça, mais maintenant vous rentrez dans une nouvelle saison. C'est un nouveau chapitre et on arrive avec anticipation, on arrive avec rêve, avec vision, mais encore sans l'exécution, c'est l'hallucination. Et moi, j'ai à cœur de prier pour vous, pour dire, Seigneur, fais de tous et chacun de nous des membres de l'équipe valable, parce qu'ensemble, on va semer les bonnes semences pour porter le bon fruit. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Pendant que les musiciens jouent doucement ici en arrière de moi, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble tous ceux qui s'engagent devant le Seigneur à dire, « Oui, Seigneur, je veux faire partie de l'équipe. Je ne veux pas seulement témoigner comme spectateur la prochaine saison de cette Église. Je veux participer. Je veux être impliqué, Seigneur, avec mes dons, avec mes ressources, avec mon énergie, ma connaissance, mes expertises. Seigneur, me voici. » Me voici, envoie-moi. Si c'est votre prière, je vais vous demander de lever vos deux mains vers le Seigneur. C'est vraiment un acte de dire, me voici, Seigneur. Me voici. Ce que le Seigneur cherche n'est pas la perfection. Ce n'est pas la perfection. Ce que le Seigneur cherche, pas juste des élites, des grands talents, les grands doués. Le Seigneur cherche des personnes disponibles, des personnes qui sont présentes, des personnes qui désirent, désirent. C'est le secret vraiment. Le désir et la disponibilité, désireux et disponible. Et Seigneur, tu vois devant toi des hommes et des femmes qui désirent participer, désirent contribuer, désirent, Seigneur, de jouer un rôle dans le prochain chapitre, la prochaine saison de cette Église, de ton royaume ici au Québec et à Québec. Seigneur, tu vois ces hommes, ces femmes, ces couples, ces jeunes adultes, ces célibataires, les adolescents ici. Seigneur, tu vois ces personnes qui disent, me voici, malgré mes défis, malgré mes problèmes, malgré mes imperfections. Me voici, Seigneur, envoie-moi, sers-toi de moi. Seigneur, je réclame ces hommes et ces femmes qui sont debout devant toi, main levée, Seigneur, je les réclame, corps, âme, esprit, pour ton royaume, pour l'Église, pour la vision et mission de cette Église ici, dans cette ville, dans cette province, dans cette région. Seigneur, je prie que tu préserves le fruit de leur témoignage, que tu les gardes, Seigneur, que rien ne vienne voler la semence, Seigneur, et la possibilité, et le ministère, et leur potentiel. On vient qu'on les attaque de l'ennemi, les découragements, les mensonges de l'ennemi, les obstacles, Seigneur, l'écrasement, le découragement. Seigneur, je prie corps, âme, esprit pour une équipe en santé, Seigneur, avec vision, énergie, Seigneur, avec l'enthousiasme, avec passion. Je les réclame. Je les réclame comme un peuple qui prie pour des résultats. Prie avec anticipation. Donne du succès, Seigneur, à l'Église, l'Église mosaïque, à l'équipe pastorale. Donne du succès pour les efforts, pour les semences qui sont semées. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui prient, qui intercèdent. Seigneur, fais de nous des personnes qui sont présentes, disponibles, qui sont là. Des personnes fiables, des personnes fidèles. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui communiquent jour après jour après jour. À la maison, dans le quartier, le voisinage, au travail, à l'école, à l'église, la reconnaissance, le compliment, d'encouragement, d'inspiration, des hommes et des femmes qui dégagent la foi, les possibilités, la joie, la reconnaissance, Seigneur, et des hommes et des femmes qui participent d'une manière tangible et concrète. Et ensemble, nous disons merci. Merci pour ce privilège. Et Seigneur, je prie pour Michael, Lydie, Émilie, Emmanuel, toute l'équipe pastorale de cette église, les membres du CA, les bénévoles, ceux qui travaillent en arrière de la scène, en avant de la scène, Seigneur, en secret, visible, je prie pour cette église, je prie pour cette équipe. Seigneur, je prie la prospérité, la bénédiction, la multiplication. Donne toutes les ressources humaines, financières, spirituelles, matérielles, nécessaire pour la prochaine étape, la prochaine dimension, la prochaine saison. Seigneur, je réclame ta bénédiction, ta main de faveur et de protection. Seigneur, conduis Michael, Seigneur, avec sagesse, discernement dans le leadership, dans les décisions. Seigneur, protège-lui et sa famille. Donne-lui toute l'énergie qu'il a besoin. Seigneur, je prie et sa famille et que cette église soit vraiment, Seigneur, un lieu de joie et de paix et d'amour et de foi et de vision au nom de Jésus. Et tout le monde dit amen, amen. Come on, poussons un cri de joie. Un cri de joie, un cri de victoire, d'anticipation, le privilège de participer. Est-ce qu'on peut rechanter? Est-ce qu'on peut rechanter le dernier chant qu'on a chanté, le chant de victoire? Là, de quoi? Bon. comme il sait que le Seigneur est bon, on a chanté le chant, hein, le Seigneur est bon, Dieu est bon. Moi, je crois qu'on peut célébrer la bonté du Seigneur, que dans son humilité et sa grâce nous appelle à participer à l'avancement de son royaume où ce que nous sommes. Juste avant que pasteur Michael prenne la place, chantons ensemble la bonté du Seigneur avec anticipation pour l'avenir et dis, Seigneur, tu peux compter sur moi, je vais participer. Que le Seigneur vous aime.